Alors, je suis Jean-Paul Aurillac, j'étais journaliste à Paris, télévision, mais vraiment un petit stagiaire sans intérêt. J'en ai eu marre un jour et j'ai décidé de rentrer au pays. Et je me suis souvenu qu'un vieux monsieur de mon village faisait parler les anciens et il avait relevé des histoires tellement anciennes que certaines avaient donné leur nom en occitan à un village, par exemple. Et je me suis dit, bon sang, il y a tous ces anciens chez nous qui racontaient des trucs aux veillées et qui vont disparaître malheureusement et tout ça va se perdre. Et j'ai eu l'idée donc de revenir au pays et de prendre un malheureux magnétophone et de partir un peu au pif dans les villages et d'interroger les gens, les anciens, pour qu'ils veuillent bien me raconter ce qu'ils racontaient aux veillées, etc. Et comme j'étais moi, je n'étais pas le gars de la ville qui arrivait, j'étais fils d'agriculteur, et donc je pouvais leur parler de mes vaches comme ils parlaient des leurs, et donc il n'y a pas eu de méfiance, et j'ai été très surpris de tout ce que j'ai pu récolter. Et bon, il y avait beaucoup d'histoires de loups, on en reparlera, et des tas d'histoires concernant, on va dire, l'ancienne religion, le culte des sources, etc., les fées, les... Et donc, j'ai enregistré tout ça, peu à peu, et puis je me suis dit, bon sang, ces choses-là, sans doute, se retrouvent dans d'autres régions du monde. Et j'ai eu la chance de rencontrer, en particulier, une prof d'université américaine qui est d'origine amérindienne, Apella, qui est venue chez nous, et qui pensait que nos sites préhistoriques étaient des lieux sacrés. Et donc, elle est venue avec ses étudiants et avec des chamans des différentes parties du monde. Et donc, chaque année, nous avons visité ces sites préhistoriques en compagnie de différents anciens des différents peuples du monde. Et l'attitude n'était pas du tout la même que la nôtre. Nous, quand on arrive dans une grotte, qu'est-ce qu'on fait? On commence pas dans un petit coin, puis on dit « Ah ben là, il y a ça, ah oui, il y a ça. » Ces anciens, ce n'était pas du tout ça. Ils arrivaient dans le lieu d'abord... Avant d'entrer dans le lieu, ils se concentraient, ils faisaient brûler de la sauge par exemple, ils se présentaient. Et ensuite, arrivés dans le lieu, ils restaient au milieu, ils essayaient d'être en harmonie avec le lieu. Et pas systématiquement de vouloir dans un petit coin découvrir le détail du dessin. Et ils essayaient de ressentir le lieu. Et donc là, on a pris des leçons avec eux et depuis, on a parfois demandé aux responsables de grotte s'ils voulaient bien que... Quand on arrivait avec les Amérindiens, les gens des Himalayas, etc., ou les Africains, qu'on ait un moment de réflexion et de présentation avant d'entrer dans la grotte.
Et vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi il ressemble ce moment de présentation, par exemple, en quoi ça consiste?
Eh bien, on se met en cercle, on fait brûler de la sauge ou autre chose, et puis une personne passe autour et fait une fumigation à chaque personne, et chacun se présente et dit « Voilà, je suis Jean-Paul et... » Voilà ma demande. Et donc, c'est comme une demande d'accès au lieu, par respect pour les gens de ce lieu. Et actuellement, en particulier dans le département d'à côté, dans le Lot, il y a un responsable de grotte qui demande aux visiteurs, à tous les visiteurs, s'ils veulent bien se recueillir un peu avant d'entrer dans la grotte. Et donc, bon, on n'a pas perdu notre temps.
Et alors vous avez passé du temps avec eux, vous les avez accompagnés dans ces visites des grottes. Qu'est-ce que ça a créé chez vous?
Quand on s'est réunis, par exemple, avec les sept chamans qui étaient venus à Gorge d'Enfer, dans le Grand Abri, et donc on avait allumé un feu de façon traditionnelle préhistorique, et moi j'étais monté sur un coin d'où le son portait bien dans l'ensemble de la grotte. Et pour la première fois, j'ai fait une invocation aux anciens de ce lieu, en occitan. Parce que je sentais que la langue française est très belle, mais elle n'était pas assez forte pour parler au rocher. Et donc, j'ai fait cette invocation en partant de mon père, le père du grand-père de mon père, etc., en descendant jusqu'aux anciens qui avaient vécu dans ces grottes. Et quand j'ai eu fini, je suis revenu avec les autres autour du feu. Et à la fin, il y a un chaman africain qui me dit « C'est bien !» C'est bien, cette langue est forte, tu dois continuer. » J'ai dit, bon, ça me donne confiance, ça m'encourage. Et puis le lendemain, on va visiter Lascaux 2 à l'époque. Et à la sortie, l'interprète russe me chope, elle me dit, ils veulent te poser des questions. En face de moi, deux masques. un chaman sibérien de l'Altaï, un chaman mongol. Je lui dis, bon sang, je suis journaliste et c'est pourtant l'interview la plus difficile de ma vie. Alors ils me disent, bon, tu as fait cette invocation, est-ce que c'est traditionnel ici ou pas? Je lui dis, ben non, on nous interdit de parler notre langue. Donc j'ai senti que c'était bien de le faire, mais j'attendais que vous veniez pour me dire si à vos yeux, c'est clair ou pas. Ils me disent, oui, ton émotion est bonne, tu dois te concentrer, mais, je dis, oh là là, mais... Tu as appelé les anciens? J'ai dit oui. Est-ce que tu as senti leur présence? J'ai dit honnêtement, j'avais tellement peur que je n'ai pas senti grand-chose. Et les deux me disent parce que nous, on a senti leur présence. C'était la plus merveilleuse réponse que je pouvais attendre. Et depuis, du coup, ben, on me demande très souvent de faire des invocations comme ça dans des lieux préhistoriques.
Est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer un peu plus ce qui vous a donné envie de faire cette incantation aux ancêtres? Qu'est-ce que vous avez senti qui vous a fait vous dire que c'était la bonne chose à faire?
Eh bien qu'il fallait avoir du respect pour les gens qui avaient vécu dans ces lieux. Il fallait avoir du respect, il ne fallait pas arriver comme ça, comme des touristes. J'ai senti qu'il fallait avoir du respect. Et à ce moment-là, j'ai senti que ben, le seul moyen, c'était de trouver l'ancienne langue et d'appeler... Très, très naturellement, commença par mon père, mon grand-père, ma mère, ma grand-mère, etc. Les femmes qui venaient chercher l'eau à la source et tout ça. Et ensuite, bien sûr, de descendre jusqu'aux anciennes générations. Ça m'a semblé naturel. Et j'avais fabriqué cette invocation en occitan et je l'avais mise dans un tiroir. Et puis un jour, quand les chamans sont venus, il y avait un chaman du Mexique qui... de tradition maya, il entre dans une grotte et il voulait faire un rituel comme il fait chez lui dans les pyramides. On le voit ressortir, il était avec ses instruments et tout, on le voit ressortir tout piteux, et il dit ben, « les esprits du lieu ne veulent pas de mon cérémonial, ils veulent la vieille langue du pays ». Alors à ce moment-là, j'ai dit à la prof américaine, j'ai dit « tu sais, moi j'ai dans mon tiroir, j'ai un truc en occitan que j'ai fait parce que j'avais senti de le faire ». Elle me dit « Oui, bah écoute, quand il y aura la réunion avec les chamans, tu le feras. » Et donc, pour la première fois, j'ai fait cette invocation et c'est comme ça que ça s'est passé.
Est-ce qu'il y a certains des mots en occitan de cette incantation que vous sauriez nous dire en occitan? Qu'on entende aussi cette langue.
Opeli, opeli mon paire, opeli lu paire del paire de mon paire, et tous les anciens qui ont vécu sur cette terre, opeli... Ma mère, opeli las femmes d'aquel terme qui dumpe la nuèche del tin, encore j'ai dit la douleur, l'aigue de la foum. Opeli tous qui sont oïmat de los qui sont acquis à queste serre et qui sont portites. Opeli la terre mère, opeli le quatre frères Robin, l'aubin del Liban. L'aubin del Sur, l'aubin de l'Aigue et l'aubin del Nord. Et te opeli, l'upaire de Munnao. J'ai inclus les quatre directions dans mon invocation, mais au départ, ce n'était pas évident, parce que moi, j'étais habitué aux quatre directions avec les Amérindiens. Et j'ai senti de le faire. Mais, je me dis, mais est-ce que chez nous... Et finalement, j'ai découvert longtemps après qu'effectivement, ça existait aussi chez nous, dans les anciennes pratiques de s'adresser aux quatre directions. Et il y a même un feu de la Saint-Jean, à quelques kilomètres d'ici, à Siorac en Périgord, où autrefois, il y avait le feu traditionnel de la Saint-Jean d'été, et ils mettaient des branchages vers l'est, vers le sud, vers l'ouest et vers le nord. Et le curé bénissait le tout, le maire allumait, donc dans ce sens-là... Et donc ça m'a conforté dans ce sens de respecter les quatre directions, en plus de la terre-mère bien sûr et du père.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les ancêtres? Comment vous vous représentez leur existence, leur place, leur rôle? Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme dans la plupart des civilisations traditionnelles, on considère qu'ils sont présents, qu'ils sont vivants. Et ici, la seule, dans notre région, la seule manifestation de la présence des anciens, c'est les périodes comme carnaval. carnaval où on appelle les anciens, ou comme maintenant à Toussaint, où on peut communiquer par différents rituels, on peut communiquer avec les anciens, les faire revenir. Et donc, c'est de toute éternité, ça existe chez nous aussi.
Et ça, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience par ces rencontres, ce rapport aux anciens et aux ancêtres ?
Aux anciens et à la nature, aux animaux et à la nature. Bon, il faut que je vous dise que ma maman était institutrice du village. Un village qui s'appelle Castelmoron-d'Albret, plus petite commune de France, tout petit. Et il s'est trouvé que comme c'était ma maman l'instit, au bout de très peu de temps, je faisais tous les devoirs de toutes les divisions. Ma mère a eu peur que je devienne un peu dingue. Et elle m'a laissé pendant un an tout seul à la maison. Et ça a été ma chance, parce que je passais mon temps à aller courir dans les prés, dans les bois, etc. Et donc, je montais à la cime des arbres quand il y avait la tempête et tout, enfin. Et donc, j'ai acquis un contact avec la nature assez étonnant. Et c'est à partir de là que j'ai toujours eu ce contact avec les plantes, avec les animaux, et avec les anciens, bien sûr.
Vous les liez, justement, les deux, la nature et les anciens ? Ils font partie d'un même ensemble ?
Oui, si vous voulez un exemple, quand j'ai été invité par le gouvernement au Québec, l'ancienne, la chamane de cette communauté, Jeanne, je ne comprenais pas, parce qu'au bord du lac, il y avait le campement, et puis il y avait une grande croix blanche. Alors je lui dis, Jeanne, mais je ne comprends pas. Vous, c'est Manitou, ce n'est pas Christ. Elle me regarde, elle me dit... Tu sais, Jean-Paul, elle me dit, Dieu, il est dans l'aigle que tu vois qui passe, il est dans le rocher, il est dans l'eau, il est dans toi, il est dans moi. Alors elle me dit, tu sais, Christ Manitou, c'est pareil. Et elle me dit, le chasseur, le matin, avant de partir chasser, il vient devant la croix et il demande à Manitou qu'il veuille bien lui offrir le gibier nécessaire pour nourrir sa famille. Et elle me dit, si sa demande est sincère, et il va voir un animal qui va s'offrir, qui va se présenter. Alors, je trouvais ça très beau, mais j'y croyais pas trop. Et puis l'après-midi, on est parti avec les chasseurs sur un pick-up. Et puis, à un moment, au milieu de la piste, il y avait une perdrix qui était là. Alors, on est quatre ou cinq hein, dans le pick-up, mais il y a un fusil. Tout le monde est là juste pour accompagner le tireur. Bon, il est descendu avec son fusil. Et moi, je filmais à l'époque. Il me dit, il s'avance, il me dit, t'es prêt, Jean-Paul, oui. Et à ce moment-là, il a tué la perdrix. Et elle ne bougeait pas. Elle restait là au milieu, tranquille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, il faut dire que leur animal sacré, c'est l'ours. L'ours. Et quand un chasseur voit l'ours, il l'appelle. Koukoum, grand-mère, Timouchoum, grand-père, est-ce que tu permets que je te tue pour nourrir ma famille ? Et l'ours doit tourner la tête vers le chasseur. S'il ne tourne pas la tête, le chasseur ne doit pas tirer pour ne pas être maudit jusqu'à... Et ensuite... Ils lui mettent du tabac dans la gueule et sur le poitrail pour lui montrer qu'il l'honore. Après, bien sûr, on dépèce l'animal, les femmes s'en occupent. Et au campement, il y a un arbre au trophée, un peu à part du campement, où il y a un morceau de chaque animal tué. L'ours, animal royal, c'est la tête. Et puis, bon, le castor, c'est les pattes avant, la perdrix, c'est les plumes, etc. Pour montrer à chaque animal qu'on ne l'oublie pas et qu'on le remercie de s'être sacrifié.
Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça ?
C'est quelque chose qui me semble tout à fait naturel. C'est la relation que j'avais, moi, quand je me baladais dans les fonds de vallon ici, avec un fusil sur l'épaule pour que j'aie l'air sérieux vis-à-vis des voisins, mais je tirais pas souvent. Et il se passait des trucs, quoi, avec les oiseaux qui passaient, il y avait vraiment... Surtout à cette période, là, où ils descendent vers le sud, il y avait des choses étonnantes.
Et je me demandais si pour vous, ces rencontres que vous faites et ce travail que vous faites, c'était une manière aussi d'essayer de recréer un lien que nous, on aurait perdu avec des ancêtres beaucoup plus anciens, parce que ce travail-là de transmission, c'est pas forcément fait.
Alors ce que disent en particulier les Amérindiens et pas mal d'autres peuples, c'est que nous, les Européens, on a perdu le contact avec nos racines. Bon, l'Église catholique y a été pour beaucoup, hein, de couper. Et... Ils pensent qu'il est primordial que les Européens, les Occidentaux, retrouvent leurs racines et qu'à partir de ce moment-là, il y a un équilibre qui sera restauré. Et donc, il y a beaucoup de sollicitude de ces peuples vis-à-vis de nous pour nous aider à à retrouver nos racines. C'est pour ça que j'ai vraiment la chance de côtoyer ces gens, ces anciens, qui sont beaucoup plus savants que moi.
Et que vous voyez souvent maintenant ?
Oui, régulièrement, oui.